Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur VOA Afrique. Eric Manirakiza avec vous depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington, D.C. Et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Dialogue des religions. Joselle Morissin assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de l'impact des religions traditionnelles africaines sur les communautés locales et les diasporas dans le paysage culturel africain. Les religions traditionnelles jouent un rôle vital en forgeant l'identité culturelle et en façonnant l'organisation sociale des communautés. Ces systèmes de croyances anciens et profondément enracinés offrent une compréhension unique de la relation entre les êtres humains, la nature et les forces spirituelles. Au cours de cette édition de Dialogue des religions, nous explorons les multiples facettes de ces religions traditionnelles africaines et analyserons comment elles influencent la vie quotidienne des gens, tant sur le continent africain que dans les diasporas. Bienvenue encore une fois pour découvrir les richesses spirituelles et culturelles de l'Afrique. Nous recevons ce soir Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattan College à New York. Professeur Mbodj, bonsoir. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Notre deuxième invité, c'est le professeur Benoît Eli Awazi Mbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Benoît, bonsoir.
Bonsoir, Eric, et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs.
Professeur Mbodj, je vais commencer avec vous. Voudriez-vous nous parler brièvement des origines et de l'évolution des religions traditionnelles africaines?
Les religions traditionnelles africaines ne sont pas parties du concept du salut. C'est remarquable aussi dans la société, mais plutôt une religion qui essaie un sens à la vie sociale, aux relations sociales ambiantes, et à consolider et à renforcer la cohésion sociale, tout en donnant un sens, disons, ésotérique, un sens qui dépasse, disons, ce qu'on pourra toucher chaque jour. Donc, du principe de la création au principe de la manifestation divine. Et ce qu'on va appeler au principe même de la rétribution, la récompense fidèle, les religions africaines sont très différentes des religions occidentales d'une manière générale, de ce point de vue-là. Donc cet ancrage, comme je dis, dans la cohésion sociale, ça va nous dire.
Benoît, comment les religions traditionnelles africaines ont-elles influencé les diasporas africaines dans d'autres parties du monde?
Alors, beaucoup de...
Si on part de l'Afrique, comme vous l'avez dit, je prends juste le cas, par exemple, du vaudou, qui est parti avec les esclaves de l'Afrique, des côtes occidentales, qu'on appelle la côte des esclaves, et qui sont arrivés en Haïti notamment, mais aussi au Brésil. Il y a d'abord cette première influence qui a aussi été fondatrice, parce que aussi bien les candomblés au Brésil, en Colombie, ou bien le vaudou en Haïti, sont des religions qui sont parties avec la traite des esclaves, mais qui ont été confrontées au christianisme de leur maître. Donc il y a très vite, d'entrée de jeu, une interaction entre la foi chrétienne, qui était du côté des maîtres, des colonisateurs, et aussi les esclaves africains qui ont emporté leur religion. Donc il y a déjà une influence dans les configurations de ce qu'on appelle l'Atlantique noir, où il y a effectivement ces religions qui ont impacté sur la musique, hein, le jazz, tous les negro spirituals aux États-Unis où vous habitez, mais aussi dans les autres parties de la Caraïbe et des Amériques. Voilà une première influence à la fois ancienne et tout à fait nouvelle.
Et c'est là, vous citez les mécanismes par lesquels ces religions ont contribué à maintenir les liens culturels et spirituels entre les diasporas et les communautés d'origine en Afrique, c'est ça?
Tout à fait, il y a ces mécanismes, mais si vous voulez qu'on entre un peu en profondeur, je prendrai deux exemples, hein, parce que souvent le risque c'est de généraliser. Alors je prends deux exemples, comme vous avez dit à l'introduction, que j'ai analysé dans mes deux panoramas de la théologie. Je prends l'Afrique occidentale, un premier exemple, c'est les travaux de Mgr Barthélemy Adokounou du Bénin. Hein, il a fait sa thèse de doctorat sous la direction du pape Benoît XVI, Dieu dans le vaudou béninois. Je passe les détails. Alors, il est bien sûr originaire du royaume d'Abomey, tout ça, et Mgr Adokounou, il dit que, bon, la différence se fait au niveau du salut. Hein, ce sont des religions du salut, mais pour le vaudou, mais là je prends un cas concret, hein, pour le vaudou, il fallait égorger un enfant impubère lors de la cérémonie du Nouvel An, vers septembre, avec la récolte d'igname. Il fallait égorger dans une cérémonie un enfant impubère, et puis on l'enterrait dans un trou, et puis on coupait les ongles du roi, ses cheveux, et on mettait dans la tombe. C'était une opération un peu magique pour chasser la mort du roi, pour retarder, éloigner la mort du roi. Ça, c'est les religions d'Afrique occidentale, et on peut dire, à partir des travaux que je fais, comme celui de Adokounou et puis d'autres Nigériens, ce sont des religions polythéistes. Il y a un dieu de la foudre, de la mer, des ignames, de la forêt. Okay? Mais allons en Afrique centrale. Et là, je cite un autre exemple, le Père Tempès, que tout le monde connaît, mais il a fait un travail qui n'est pas toujours bien interprété par les théologiens. On a beau le critiquer, nos philosophies, mais Tempès a vu juste par rapport au Bantou du Katanga, où il a travaillé à Kabondo Dianda. Et il dit ceci, les cosmogonies des Bantous sont basées sur la connaissance de Dieu, Mungu, Zambé, Leza, qu'il appelle comme ça en Kinouba, et la vie vient seulement de Dieu. Lui seul peut donner la vie, mais elle passe par la médiation des ancêtres, des patriarches, des fondateurs des clans, des tribus. Donc, à l'Afrique centrale, on parlera beaucoup plus des esprits, hein, bons ou mauvais, qui cohabitent avec les humains. Et à l'Afrique occidentale, ce sont les vraies religions, au sens où il y a plusieurs divinités. Alors, je donne cette première différence qui a été travaillée par beaucoup de théologiens africains, pour montrer que, quand nous disons religion traditionnelle africaine, on peut déjà distinguer les religions polythéistes, qui sont encore pratiquées aujourd'hui, plusieurs dieux. Mais les religions de Bakatanga, c'est un seul dieu, comme dit Tempels, qui a la vie en lui-même et qui seul peut la donner, même si elle passe par les médiations des ancêtres éponymes, des patriarches, des archipatriarches. Les Bantous ont une vision hiérarchique, métaphysiquement orientée, qui part de Dieu et qui rejoint les vivants à travers la médiation des morts et qui retourne à Dieu. Voilà un peu les deux exemples. Mgr Adokounou et le père Tempels.
Professeur Mbodje, comment ces religions ont-elles contribué à façonner l'identité culturelle des communautés locales en Afrique notamment?
Ce qui s'est passé, c'est effectivement la plupart de ces populations déplacées, ce qu'on appelle maintenant la diaspora, ont gardé une vision de ce qu'ils ont laissé derrière. Quelquefois, les historiens appellent une résistance culturelle en gardant une grande partie de leur religion traditionnelle. Et en particulier dans ses aspects les plus visibles, comme le chant, la danse, la musique. Et de ce point de vue-là, donc, on peut dire que l'attachement, par exemple, des Noirs américains et au niveau spirituel, la formation du jazz, la formation de toute cette musique qui est associée donc, à l'adoration divine, donc une musique liturgique qui devient profane, le niveau spirituel, et ensuite devient le rhythm blues. On voit là clairement qu'il y a une relation entre l'héritage, ce qu'on a amené d'Afrique, et qui a permis
aux esclaves de garder un sens de leur identité, mais surtout un sens de ce que le monde autour d'eux vaut, la manière dont ça fonctionne. Et ça s'est traduit dans la culture afro-américaine maintenant, qui certainement, sans les manifestations religieuses africaines d'origine, peut-être n'aurait pas existé sous cette forme, ou en tout cas n'aurait pas existé de la manière dont on la connaît maintenant.
Donc, vous voulez dire que ces religions ont influencé les mouvements de revendication et les luttes pour les droits des communautés africaines et afro-descendantes dans les diasporas?
Ah oui, donc parce que l'oppression, ce n'est pas seulement prendre quelqu'un de force et le forcer à travailler. L'oppression, c'est aussi de forcer quelqu'un à penser, à obéir, de le forcer à abandonner sa culture et de faire en sorte que il se moule un tout petit peu dans ce que le propriétaire, le dominant veut qu'il fasse sans, disons, sa restriction. Donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait clair que la résistance culturelle de ces esclaves noirs s'est transformée en prise de compte de leur identité et leur a permis de résister. Et lorsque la liberté finalement a été entrouverte, et justement, c'est sur cette base qu'on peut dire que la conscience, que ce soit artistique, politique ou autre, des communautés noires américaines a été fondée sur ces pratiques religieuses à l'origine et qui donc ont permis de créer une identité afro-américaine.
Benoît Awazi, quels sont les rituels et les pratiques les plus couramment observés dans les religions traditionnelles africaines et comment ils sont intégrés à la vie quotidienne des gens?
Ok, merci Eric. Avant de répondre directement à cette question, je voulais juste continuer dans ce que le professeur a dit par rapport à l'influence au niveau des États-Unis. C'est tout à fait juste au sens où je viens de finir un ouvrage où j'ai dit Barack Obama et la théologie africaine de la libération aux États-Unis pour montrer comment est-ce que Jeremiah Wright, son pasteur, a vraiment forgé, aussi bien au niveau politique que théologique, la mentalité d'Obama. C'est une parenthèse que je referme aussitôt. Et pour revenir aux pratiques, maintenant, je pense que je répondrai au niveau de comment est-ce que les Africains, qui sont quand même une certaine majorité, qui ont intégré et l'islam et le christianisme, vivent au quotidien, c'est tout à fait votre question, les schèmes, les pratiques de ces religions. Je prends juste un exemple. Par exemple, je prends le Congo, d'où je viens, même aussi les diasporas, mais partons d'abord au Congo. Aujourd'hui, Eric, quand vous arrivez là-bas, vous allez voir que partout et tout le temps, il y a des problèmes, des séances d'exorcisme, des séances de guérison, des séances de purification. Alors, les pratiques, c'est surtout les prières, les liturgies des différentes confessions religieuses, disons chrétiennes pour le moment, qui intègrent, parce qu'il n'y a pas dans ces religions, parmi leurs caractéristiques, c'est l'intrication entre le religieux et le politique. Et puis l'intrication entre le prophétique et le thérapeutique. Et puis l'intrication entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire, dans ces religions, il n'y a pas rencontre avec la divinité sans une émission, au sens où on dit émettre, des énergies thérapeutiques. Et je crois que c'est un problème énorme pour toute l'Afrique subsaharienne, pour leurs églises, aussi bien pour les théologiens que les pasteurs, de tenir un discours cohérent par rapport à ces pratiques. Par exemple, quand vous êtes au Congo ailleurs, les charismatiques ou les églises du réveil, ils prétendent purifier les gens de mauvaise sorcellerie traditionnelle au nom de Jésus-Christ. Donc, en filigrane, je dirais que les pratiques sont essentiellement les liturgies de communion, de prière, de supplication à la divinité. Maintenant, c'est là qu'il faut être tout à fait honnête, intellectuellement et théologiquement. Il y a exemple pour ces religions, quand on arrive dans le régime chrétien, tout se fait par l'autorité de Jésus-Christ. Alors là, c'est là que les pasteurs et les autres responsables doivent être sensibles au phénomène de syncrétisme. Il ne s'agit pas de juger les religions, mais il s'agit d'être cohérent. C'est-à-dire, en régime chrétien, par exemple, c'est Jésus-Christ qui revendique l'autorité de Dieu. C'est même la raison de son départ de chez les Juifs, c'est-à-dire les Juifs n'ont pas accepté ça, qu'il s'est dit « celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc je résume en disant que c'est plutôt dans les liturgies des guérisons, et là il faut du discernement spirituel, théologique, de la part des pasteurs. Ça se joue surtout à ce niveau, et si tu permets, je finis, ça se joue aussi au niveau de proximité théologie politique. Observe les pays africains, regarde comment est-ce que le religieux et le politique s'entremêlent et regarde l'ampleur des conflits que cela génère. Voilà le quotidien.
Benoît, justement, quels sont les autres exemples de diaspora africaines qui ont réussi à intégrer les éléments identitaires de ces religions traditionnelles dans leur nouvel environnement culturel?
Bon, je dirais que les diasporas, pour ne pas aller loin, moi j'habite ici au Canada depuis 20 ans bientôt, j'ai aussi fait 10 ans en Europe, j'ai aussi voyagé aux Antilles, je peux dire que c'est vraiment là, au quotidien. Bien sûr, il y a d'abord la culture. Par exemple, il y a aux États-Unis, vous savez ça, le Kwanzaa, dans le mouvement afrocentriste, le Kwanzaa, j'ai aussi vu ça aux Antilles, c'est vraiment une renaissance culturelle où les anciens reviennent. Kwanzaa signifie commencer en Swahili. Et dans ce Kwanzaa, il y a même une célébration du Nouvel An, les valeurs ancestrales qui sont communiquées aux Antilles, aux États-Unis, vous habitez, au Canada et en Europe. Il y a une recherche identitaire qui se vit par une volonté de s'assumer, mais aussi de créer nos propres affaires, comme les célébrations du Nouvel An, comme les valeurs culturelles à transmettre aux enfants qui sont nés en situation de diaspora, mais aussi au niveau philosophique. Alors là, je n'entrerai pas dans les débats idéologiques, mais comme vous me demandez, au niveau quotidien, c'est plutôt au niveau culturel. Il y a une volonté de transmettre les valeurs ancestrales des Africains à leurs enfants, à leurs familles qui sont nées ici en Occident. Et au niveau religieux, j'ai déjà dit, il y a une prise en compte des ancêtres. L'invisible et le visible sont interreliés en régime théologique négo-africain.
Professeur Mbodj, quels sont les éléments identitaires justement de ces religions traditionnelles intégrées dans le nouvel environnement culturel des diasporas?
Par exemple, il y a dans les cérémonies de mariage afro-américaines, ils sautent sur un balai, quelque chose qui rappelle des rites africains très nettement. Ensuite, le chant a cappella et le chorus dans les églises est tout à fait un phénomène africain. Puis même la coiffure, les chapeaux, et alors qu'en Afrique, c'est le mouchoir de tête, montre très bien qu'il y a une sorte d'attraction. Une sorte de sacralité, de l'ornement pour ce qui est la tête, la partie supérieure du corps. Donc il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut déceler et qu'on peut voir très nettement pour comprendre qu'en fait ce sont des origines noires africaines qui ont été transplantées et effectivement, disons, appliqué d'une certaine façon différemment, mais en réalité, c'est la culture africaine qui continue à s'exprimer à ce niveau-là.
Revenons sur le continent africain. Professeur Mbodj, comment ces religions ont-elles résisté, disons, à la colonisation et à l'expansion ou à l'influence des religions importées telles que le christianisme et l'islam dans les communautés locales en Afrique?
Bon, d'une certaine façon, il y a les marqueurs géographiques de ces religions, comme les autels, comme les forêts sacrées. Donc, il y a une géographie sacrée qui fait qu'on ne peut pas faire abstraction de cette géographie sacrée. Elle est là, elle existe, elle s'impose. Et d'une certaine façon, permet à des populations qui veulent résister, donc de trouver une sorte d'ancrage géographique qui leur permet de pouvoir dire non à l'oppression coloniale, à l'oppression culturelle, et de faire en sorte que il y a là une base de départ. L'autre base, c'est devant l'assaut de l'Occident. Les populations africaines ont décidé et ont voulu une résistance collective. Résistance collective sous-entend une cohésion, et cette cohésion est offerte par la religion, par la vision cosmogonique, par exemple la notion de temps qui est très cyclique, qui est une sorte aussi d'ellipse en Afrique, alors que cette conception est linéaire ailleurs, en tout cas en Occident, pour vous donner cet exemple. En plus, lorsqu'on est dominé, on peut souvent pour résister en disant que cette domination, elle est matérielle, elle m'est imposée, mais dans mon fort intérieur, je suis capable de résister. Mais en plus, je suis capable de résister en fonction de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas. Une dimension, la dimension des esprits, la dimension des ancêtres qui reviennent, etc., et qui permet en quelque sorte de créer un écran, un bouclier très efficace contre l'influence de l'Occident et l'influence de la chrétienté et dans une moindre mesure peut-être l'islam qui souvent intègre certaines ou plutôt certains aspects ou en tout cas est très proche à intégrer certains de ces aspects.
Benoît, quel a été le rôle de ces religions traditionnelles africaines pendant cette période coloniale? Il nous reste 2 minutes et demie.
Bon, ok, Eric, alors je continue. Alors, je rebondis sur ce que mon prédécesseur a dit. Je prends un cas concret. Alors, je pense que vous voyez que nous sommes rejoints sur la dimension de l'invisible, la dimension métaphysique. Et ça, c'est la force de Tempest. Hein? On appelle ça une philosophie panvitaliste. La vie doit s'accroître par l'énergie qui vient de Dieu, qui passe par le monde invisible, c'est ça. La médiation métaphysique des ancêtres et jusqu'aux vivants. Donc les vivants, ils sont délégués, ils sont les mandataires des ancêtres pour vivre leur vie ici. Et cela aboutit à ce qu'on appelait les églises indépendantes africaines. Vous voyez, matuanisme, kimbanguisme, curieusement, ils sont tous là de l'Afrique centrale du grand peuple Congo, hein, qui est dans toute la région du royaume Congo, depuis Kimpanvita, au XVIIe siècle. Dona Beatriz Kimpanvita, qui a été brûlée par les Portugais parce qu'elle essaie de déclarer Jeanne d'Arc l'Africaine. Donc ici, moi, je vais juste, comme on n'a plus beaucoup de temps, focaliser sur ces religions traditionnelles africaines. On fait une herméneutique autonome, indépendante, libératrice, émancipatrice et prophétique du christianisme et on donne naissance aux églises indépendantes africaines. Matuanisme, kimbanguisme, église du christianisme céleste au Bénin, hein, l'église ariste, c'est ce qu'on appelle le prophétisme, le messianisme africain. Donc voilà un peu une bonne synthèse qui n'est pas de l'éclectisme ni de la juxtaposition, qui est une intégration. C'est-à-dire les kimbanguistes, les aristes sont des chrétiens. Et quand on est chrétien, ça signifie que nous confessons que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et Jésus-Christ donne le salut à ceux qui sont ses disciples, à ceux qui croient en lui. Donc, ces religions, leurs caractéristiques essentielles, c'est ça. Visible, invisible, une dimension thérapeutique de la religion, une dimension immédiate et même une certaine ouverture à la mystique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire une expérience vécue avec la divinité.
Professeur Mbodj, en quelques secondes...
immédiate, expérimentale,
oui,
avec la divinité,
merci.
Qui se produit dans le quotidien par des phénomènes de guérison, des phénomènes
merci,
de
Benoît.
Résurrection,
merci.
De réanimation des enfants, comme
merci,
le prophète dans l'Ancien Testament, Élie et Élise, le fait.
Merci, Benoît. Professeur Mbodj, en quelques secondes, y a-t-il d'autres exemples des religions traditionnelles africaines qui ont survécu face à l'expansion du christianisme et de l'islam?
Oui, dans les villes, par exemple au Sénégal, c'est actuellement la période du bac. Donc, et les étudiants et leurs parents défilent chez les marabouts pour avoir, disons, des instruments ou des outils qui leur permettent de passer le bac. Donc, et ces outils et ces instruments ne sont pas inclus dans ce qu'on peut appeler la liturgie chrétienne, ni même dans la liturgie musulmane orthodoxe stricte, mais les praticiens africains sont là pour remplir cette demande sociale. Donc, chercher un mari, chercher une femme, avoir de la chance dans la vie, gagner à la loterie, réussir au bac, il y a bien des milliers de personnes dans les villes africaines qui rendent ce service en utilisant les religions traditionnelles.
Merci, professeur Mbodj. Belge, on parlait de l'impact des religions traditionnelles africaines sur les communautés locales et les diasporas. Benoît Awazi, Mbambi Kungua, merci beaucoup. Joselle Morissin a assuré la mise en onde. Eric Manelakiza a été avec vous. Excellente soirée à vous.